À quoi ressemble la vie d'entraînement d'un trailer aventurier professionnel? Et jusqu'où va-t-il pour se préparer sur le plan de la nutrition? Réponse avec mon invité du jour, Mathieu Blanchard. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Runs, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons au Canada à la rencontre de Mathieu Blanchard, aussi connu sous le nom de Mathieu Koh-Lanta. Bah oui, l'émission lui a permis de bénéficier d'un gros coup de projecteur. Les fans de l'émission se rappellent de sa participation à l'édition Les 4 Terres diffusée en septembre 2020. Mais le coup de projecteur énorme, ce fut à la fin du mois d'août dernier, quand il s'est pointé sur la ligne d'arrivée de l'UTMB en 3e position. Une performance énorme réussie en gagnant 2h30 par rapport à sa première participation. Et que dire de sa 5e place au Marathon des Sables, quelques semaines plus tard, dans une ambiance bien différente. Sa progression quelques années n'est pas passée inaperçue et il fait désormais partie de la team officielle Salomon International. Un parcours fulgurant qui ne doit rien au hasard. Car vous allez découvrir comment il se prépare et quelle minutie il met dans cette préparation. Son organisation précise au quotidien pour concilier ses nombreuses activités et avoir le temps de courir un volume d'heures important, mais aussi un entraînement très minutieux sur le plan de la nutrition. Nous avons aussi parlé de ses projets, de son aventure en Gaspésie, de Koh-Lanta bien entendu, et même d'un entraînement qu'il avait fait pour l'émission et qui ne lui a servi à rien pendant l'émission. Et puis vous saurez où le trouver à la fin d'une course et quel sera son menu pour récupérer après une épreuve telle que l'UTMB. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec Mathieu. Allez, c'est parti. Bonjour Mathieu.
Bonjour Bertrand, merci pour l'accueil.
Comment vas-tu ?
Ça va très bien, j'ai encore la voix endormie, pas que mon corps n'est pas réveillé, mais c'est plus mes cordes vocales qui ne sont pas réveillées, il est encore 6h30 du mat, depuis le lieu où je te parle, Montréal, au Canada, au Québec.
Et oui, parce que on traverse l'Atlantique aujourd'hui, on part dans le grand froid, j'ai envie de dire, parce que moi je me plains du froid, alors que j'ai 11 degrés dehors aujourd'hui, toi j'imagine qu'il doit faire un petit peu plus froid.
Ouais, ça me fait bien rire parce que je m'entraîne dans des conditions de froid assez extrême. On parle de moins 20, moins 25, moins 30, moins 35, ça arrive assez souvent. Et puis, j'ai mes amis en France qui parfois me disent « Oh là là, je vais pas sortir aujourd'hui parce qu'il fait 0 degré ou 5 degrés. » Mais nous ici, quand il fait 0 degré l'hiver, la sensation, en fait, c'est vrai que parfois en hiver, d'un coup, ça va remonter à aller à moins 3, moins 5. On a vraiment l'impression qu'il fait super chaud. D'un coup, tu vois les coureurs et les coureuses qui sortent en short. Ça se découvre, je dirais pas non plus en débardeur là, mais quand même beaucoup plus léger. Et puis c'est juste une histoire d'habitude et de sensation. Et vraiment le froid, si on est bien équipé avec les bonnes couches et qu'on respecte tout ça, on s'en sort très très bien. Et si on avait froid, je peux te dire qu'on n'irait pas, courir. En fait, on n'est pas fou non plus. Donc c'est surtout d'avoir des bons équipements et tout se passe très bien.
Oui, mais et en fait, je suis quelques coureurs qui sont au Canada. Et c'est vrai que ils ont des sorties, on les voit tout gelés, la barbe, la moustache, les cheveux, tout verglacé, des séances en se disant mais comment il peut courir sur de la glace. J'ai écouté ton podcast, ton dernier épisode, jour-là il fait quoi, moins 25, tu dis il faut les tourner, il y a une séance, etc. Enfin,
exact.
C'est quand même pas facile pour avoir des appuis et autres, même pour s'entraîner quoi.
Bah, il y a des petites techniques qu'on apprend avec le matériel. Déjà, c'est sûr que les barbes gelées ou les cheveux gelés pour les filles, quand tu démarres la sortie, c'est toujours un petit peu douloureux, ça pique un petit peu sur le visage parce que c'est le seul endroit, enfin c'est la seule partie du corps où la peau est exposée. Mais je dirais qu'après 5-10 minutes, ça s'anesthésie la peau. Hein, on est bien fait quand même, elle s'anesthésie. Et tu sens plus rien en fait. Puis c'est là que le plaisir de la séance commence. Et au niveau du sol, en fait, c'est vrai que c'est hyper, hyper, hyper variable d'un jour à l'autre. Alors tu peux avoir de la neige très fraîche qui vient de tomber, qui est très légère, très agréable, un petit tapis. Tu peux avoir de la neige très dure qui, elle, est vraiment accroche en fait. C'est assez impressionnant, de la neige dure. On a tendance à se dire que la neige glisse tout le temps, mais non, il y a différentes caractéristiques de neige. Et la neige dure, tu vois, elle est un peu… qui a été écrasée par des raquettes ou par une machine qui est passée. On dit que la neige a été tapée, mais ça accroche énormément. Il suffit d'avoir des chaussures un peu trail et ça fonctionne bien, même avec des chaussures de route. Et après, bon, t'as la dernière texture de neige que je dirais qui est la glace. Alors, ce qui va se passer, c'est que parfois, il peut pleuvoir et puis il peut faire très froid juste après, ce qui fait que ça va faire une banquise au sol. On appelle ça la glace noire dans toute la ville. Ou par exemple, il fait un redout dans la journée, la neige fond. Et pendant la nuit, après, ça repasse en négatif et là, ça gèle. Et donc là, tu as des techniques. Soit tu cours en ayant vraiment une technique. On a l'habitude de lire en fait le sol en ayant une technique que dès que tu vois la plaque de glace, tu vas faire des tout petits pas comme si tu étais sur des œufs ou sur des braises incandescentes, là, tout, 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 pour pas tomber. Ou carrément, tu joues avec la glisse. Tu as une petite plaque de béton qui accroche bien juste avant. Hop, tu fais trois pas et jum, tu te jettes sur la plaque pour glisser. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est utiliser des sortes de crampons en métal que tu vas mettre par-dessus ta chaussure. Ou carrément, maintenant, ça existe, c'est des petites vis exprès pour pneus de vélo ou de voiture que tu peux visser dans les crampons de la chaussure. Donc ça fait des petits clous en métal, on va dire, sous la chaussure qui accrochent vraiment fort sur la glace. Donc on apprend ça au jour le jour et puis après tu respectes les couches vestimentaires parce que l'idée en fait c'est de pas être mouillé. Beaucoup de personnes ont tendance à penser qu'au plus il fait froid, au plus on se couvre, et c'est totalement paradoxal parce que c'est tout le contraire. Au plus tu te couvres, au plus tu vas transpirer, au plus tu vas avoir froid. Donc voilà, l'idée c'est de bien connaître cette histoire des trois couches là, les couches d'oignon pour pas avoir froid, et surtout d'avoir des vêtements avec des fermetures éclair pour être capable de jouer avec des ouvertures-fermetures parce qu'en fonction de la sortie, tu vas accélérer, ralentir, t'arrêter à un feu parce qu'il passe au rouge, accélérer parce que tu fais une séance de fractionné, récupérer entre deux séances. Tu dois être capable d'ouvrir et fermer les fermetures éclair pour aérer, pour justement tenter d'être le moins humide possible puisque voilà, l'eau est 25 fois plus conductrice que l'air au niveau de la conduction thermique. Et donc, tu as plus froid lorsque tu es mouillé. Voilà. Et tous ces petits trucs font que vraiment, moi, je me fais des très, très belles sorties par moins 35, des 40 km. Ça passe très bien avec aucune sensation de froid et c'est vraiment, vraiment agréable.
Bon, ben voilà, c'est dit pour ceux qui se plaignent. Bon, on va être, là, on enregistre le 10 parce qu'on est le 8 février. On va diffuser ça en mars, donc il fera, j'espère, un peu plus chaud. On n'est pas à l'abri d'un petit coup de froid. De là à ce qu'il fasse un moins 30, moins 40, ça, bon, on risque pas. Surtout que je pense à tous nos auditeurs bretons, parce qu'on a plein d'auditeurs en Bretagne. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée là-dessus, c'est de savoir, est-ce que tu vas venir en Bretagne un jour? Parce que tu as plein de fans partout, des gens qui te connaissent. Et on va en reparler parce que j'avais nos deux questions là-dessus. Parce que il y a quand même quelqu'un qui dit, bah, moi, je le connais pas. Alors, tu vois, là, on a commencé à discuter. Et quand j'ai regardé un petit peu ton parcours, moi, je me suis dit, je sais pas vraiment trop comment te présenter. Et donc, je vais te laisser te présenter en quelques mots, dire vraiment, je sais pas si t'as une carte de visite, mais qu'est-ce que tu mettrais dessus?
Ben, donc déjà pour la Bretagne, je suis déjà allé en Bretagne une fois dans ma vie, mais ben ça va être lié à la seconde question que tu viens de me poser. C'est que, disons que mon profil, c'est un profil très évolutif, très changeant au gré de mes épanouissements, de mes rencontres, de mes opportunités. Je suis très ouvert aux signes de la vie qui fait que quand il y a des choses qui se passent, je les rejette pas, je les prends, et ce qui fait que voilà, j'évolue beaucoup. Et dans une vie antérieure, j'étais beaucoup porté sur l'océan et sur la plongée sous-marine, et j'avais été en Bretagne. Voilà, j'étais arrivé en TGV à Brest, j'avais fait un petit peu le tour en voiture, et puis j'avais fini ma course à Trébeurden, où il y avait un gros centre de plongée sous-marine qui formait les moniteurs fédéraux. Et voilà, j'avais passé du temps là-haut avec les granites roses à plonger. Il y avait des phoques sous l'eau, des gros homards, les forêts de kelp, et j'avais trouvé ça merveilleux. Mais à cette époque, je n'étais pas coureur. Donc oui, il faut que je retourne en Bretagne pour ben, le Mathieu, le nouveau Mathieu, qui est coureur maintenant, pour découvrir la Bretagne sous un autre angle, sous l'angle de la course. Et puis je sais qu'il y a aussi des belles courses qui se font là-bas. J'ai vu l'année dernière aussi des personnes se lancer sur des défis hors course, de faire le tour de la Bretagne. Il y a des beaux GR ou des beaux sections de sentiers en tout cas. Et faut que j'y retourne, ouais, vraiment, parce que des fois je me dis, Matt, mais tu vas à des courses aux quatre coins du monde, voir des super paysages et des super cultures, mais tu n'as même pas encore aujourd'hui fait le tour de toute la France, de tout ce qu'il y a de beau à voir sur le côté terrestre. Donc c'est clair que la Bretagne, c'est dans ma liste. Ben moi, j'ai un parcours assez classique, disons, plus jeune, là, le lycée, le bac scientifique. Après, j'ai fait une école d'ingénieur sur Grenoble. Je suis devenu ingénieur. J'ai pratiqué comme ingénieur pendant une dizaine d'années dans plusieurs pays, parce que quand on est ingénieur, on a l'opportunité d'aller y réaliser des mandats à l'international. Donc, ça m'a amené à travailler en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, en Afrique. Et puis, une opportunité m'a amené à Montréal, au Canada. C'est pour ça que j'atterris ici il y a 8 ans en arrière déjà. C'était en janvier 2014. Ça fait 8 ans que je suis ici. Et voilà, donc jusque-là, je dirais que c'est assez classique. En parallèle, j'avais fait aussi mes formations de plongée sous-marine pour devenir moniteur. Donc, j'ai enseigné aussi la plongée assez souvent. Encore une fois, dans diverses destinations, disons que c'était mes vacances d'ingénieur, là, quand j'étais un peu tanné de travailler sur mes choses d'ingénieur, ben, je partais enseigner la plongée en mer Rouge, dans les Caraïbes, en fait, je suis allé un peu partout. Et c'est à Montréal que ben, je me suis mis à courir, voilà, au début pour me remettre un petit peu en santé. Après des années assez festives en école d'ingénieur et puis en début de carrière, quand on commence à gagner un peu des salaires intéressants, ben on profite. Enfin moi en tout cas, je profitais faire la fête avec les copains et donc voilà, je me suis remis en forme et puis la course à pied est finalement devenue pour moi vraiment quelque chose de très puissant puisqu'aujourd'hui ça dirige ma vie. La course à pied m'a amené à devenir un bon coureur, dira-t-on, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance depuis cette année d'intégrer le team international de Salomon, qui pour moi c'est vraiment le Graal dans le monde du trail là. C'est le plus beau team là, même si d'autres sont sympas aussi, mais pour moi c'est le team un peu historique où on a vu les plus grands passer comme Kylian, François, Courtney, enfin voilà. Donc ça, c'est une de mes casquettes. Je suis aussi directeur du développement commercial international pour une entreprise qui s'appelle La Clinique du Coureur, encore une fois dans le domaine de la course à pied, un organisme qui fait des formations pour les professionnels de la santé, donc les kinés, les physios, les ostéos, les médecins du sport, pour les mettre à jour un petit peu sur la science, sur ce qui se fait dans le domaine de la course à pied en termes de prévention et de traitement des blessures. Donc moi, mon boulot, c'est de organiser des formations et de développer cette entreprise à l'international. Et puis, j'ai aussi une casquette de coach. J'accompagne des coureurs et coureuses dans leurs objectifs quelconques, que ce soit de commencer à courir et réaliser un 5 km après 6 mois, jusqu'à des ultra-trails. Donc voilà, j'accompagne ces sportifs-là. Et puis, à côté de ça, je fais aussi beaucoup de... Alors là, je vais mettre dans une seule casquette, mais disons, je suis un raconteur d'histoires.
Ouais.
Et pour raconter des histoires, ben, j'organise des aventures hors course. Ça peut me prendre un an à organiser, où je vais partir longtemps dans la nature, par moi-même, à gérer mon aventure, pour ensuite aller raconter l'histoire de cette aventure. Et ça va se faire à travers différents canaux. Et puis, je mets vraiment une casquette là-dessus parce que c'est un travail qui me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, les différents canaux, ben, c'est les réseaux sociaux, classiquement Instagram surtout, et puis des relais sur Facebook, parfois LinkedIn, Twitter, voilà. Je raconte des histoires aussi depuis récemment, mais sur un podcast dans mon bain que je viens de démarrer. Et puis, je me mets à la place d'un auditeur. On se dit, bah, tu le sais, toi, hein, mais j'imagine que l'auditeur doit se dire, bah, un podcast, c'est facile, il suffit d'allumer un micro et puis let's go, j'enregistre, puis il n'y a rien à faire. Mais non, c'est énormément de travail parce qu'il faut penser en amont au sujet. Il faut derrière faire le montage. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et puis, je suis en train aussi, bon, je l'ai déjà fait ponctuellement, mais je suis en train de travailler un petit peu plus fort côté conférence aussi, pour aller éveiller les consciences et inspirer chez les jeunes en école. Là, j'ai eu beaucoup de sollicitations par des professeurs d'école et des instituteurs qui suivent un petit peu mon parcours et qui ont même montré parfois, ben, à travers la création de mon contenu, je fais des films et qui ont montré mes films à leurs élèves et puis qui disent, mais waouh, t'inspires la petite génération, ça serait bien que tu viennes leur raconter en personne ce que tu fais. Donc cette année, je vais aller voilà, un petit peu raconter ces belles histoires dans les écoles. Et puis, tant qu'à faire, pourquoi pas le faire en entreprise aussi, puisque je trouve que le sport reste une très belle école de vie. Et puis, on peut illustrer des choses très simples par le sport, des concepts très complexes, pardon, avec le sport, comme le leadership, la cohésion d'équipe. Et puis, on le vit dans le sport et c'est facilement transposable à l'entreprise. Donc, je travaille là-dessus. Mais attends, là, si je le dis, ça serait la première fois que je le dis, ben, ça
Vas-y,
sera,
vas-y.
voilà, ben, cadeau, cadeau. Un cadeau, grosse révélation. Dans ton podcast aujourd'hui, ben, je suis dans la rédaction d'un livre que j'aimerais sortir avant la fin de l'année. Donc, c'est aussi un travail. Et ça fait partie de cette casquette de raconteur d'histoire. J'en ai peut-être oublié, mais voilà un petit peu mon profil aujourd'hui.
Et ça fait un paquet de trucs quand même, t'as le temps de courir?
Mais écoute, je te dirais que j'ai des journées qui sont très chargées. Je me lève à 5h du mat, je me couche à 21h et j'ai pas une minute pour me poser devant un film en général. Je suis assez organisé pour faire tout ça. Et pour courir, mais en fait, la technique que j'ai trouvée, c'est que aujourd'hui, je suis vraiment obligé de me mettre des rendez-vous dans mon Google Calendar pour faire mes entraînements parce qu'en fait, je reçois tellement d'opportunités de rendez-vous que si je mets pas des rendez-vous dans mon calendrier, je remplis mon calendrier de lundi à vendredi et puis là, ben, je me rends compte que j'ai plus aucune place pour aller m'entraîner. Donc, j'ai des rendez-vous avec moi-même le matin, le midi, le soir, dépendamment des jours et des entraînements que je vise, qui sont programmés à l'année, disons. Et puis, lorsqu'on me propose un rendez-vous, que j'ouvre mon calendrier, je vois tout de suite que je ne suis pas disponible, par exemple, de 7h à 8h30 parce que je vais aller faire un jog et que là, ben, personne ne peut me prendre ce créneau-là pour un rendez-vous parce que c'est un rendez-vous avec moi-même pour m'entraîner. Donc, c'est la technique que j'ai trouvée. Oui, j'ai trouvé du temps. Mais voilà, c'est très très serré. C'est très serré. Après, voilà, l'hiver, je me stresse pas trop dans cette période parce que disons que c'est une période de coupure pour moi, puisque je coupe drastiquement le volume de course, pas l'intensité, mais le volume. Et c'est ça qui me prend le plus de temps, ce qui fait que voilà, je me libère beaucoup de temps pour avancer sur des projets plus intellectuels, dira-t-on. Et c'est plutôt à partir du mois de mars-avril où je vais commencer à pousser le curseur du volume qui fait que mon calendrier de course va se charger un petit peu plus aux dépens d'autres sphères professionnelles de ma vie.
Mais c'est vrai que tu le dis dans ton podcast. Je mettrai le lien dans la note de l'épisode parce que dans ton bain, tu nous expliques la coupure. Alors qu'il y a plein de gens qui n'osent pas couper, qui se disent, toi, tu l'expliques très bien, hein, la notion, comment tu vois la coupure, etc. Bon, on a compris quand même que c'est pas une coupure totale. Et là, tu le redis.
Alors si, c'est vrai que j'ai eu des beaucoup de commentaires sur le commentaire et puis certains me disaient ah mais c'est bien aussi de couper total. Faudrait que je réécoute l'épisode. Peut-être que je l'ai dit et puis au montage ils l'ont pas mis ou je l'ai oublié. Mais je fais une coupure totale également en décembre, hein, vraiment en décembre dans la période des fêtes, puisque c'est un moment famille, amis. Je fais une coupure vraiment totale. Et en plus de ça, je fais un jeûne. Enfin, j'ai commencé ça, mais je fais un jeûne total aussi.
Ah ouais.
Et cette année, alors ça a été une circonstance due au fait, j'ai fait une coupure totale de 1 mois de course à pied en décembre. Alors habituellement, je fais pas ça parce que c'est trop de désadaptation tissulaire qui fait que derrière, je risque de me blesser. C'est pas bon. Mais cette année, je suis parti en novembre en Afrique du Sud faire la course Ultra Trail Cape Town. Et ben, Omicron a décidé de naître à ce moment-là. Malheureusement. Les Sud-Africains ont été trop justes d'annoncer ce. Ils l'ont découvert là-bas, les scientifiques, mais ça, c'est pas du tout né en Afrique du Sud, hein, c'est né en Europe. Bref, comme c'est les premiers qui ont levé le drapeau, ben, on les a culpabilisés. Et puis ça fait que ben, quand je suis arrivé en France, on m'a dit ben, tu dois te confiner 10 jours. Et donc, je suis resté confiné 10 jours à la maison, enfermé total, j'ai pas pu courir. Et après quoi, je suis rentré au Canada dans les fêtes de Noël, ce qui fait que, ben voilà, début décembre, j'étais dans un safari post-course pour profiter et puis me reposer les jambes. Ensuite, j'étais des jours en confinement et ensuite, je suis rentré dans les fêtes de Noël. Donc, j'ai pas couru. Je crois qu'en tout, j'ai un volume de course de 1 heure sur tout le mois de décembre. Donc, oui, il y a eu une grosse coupure. Et ensuite, effectivement, en janvier, je le dis bien dans le podcast. Une coupure, ça ne veut pas dire couper totalement, ça veut dire ben, couper dans ton volume ou dans ton intensité. Parce que couper totalement, ce n'est pas forcément bon, là, je viens de le dire auparavant. Le corps, c'est une super machine pour s'adapter au stress que tu lui appliques, mais c'est une super machine pour se désadapter aussi. Et puis, on a tendance à penser que tout est acquis dans la vie et que dans le sport, mettons que si on est arrivé à un volume de course ou de kilométrage hebdomadaire en novembre, qu'on arrête en décembre et qu'on reprend en janvier, ben on peut reprendre où on en était. Mais non, non, pas du tout. Il faut recommencer assez bas avec une courbe de progression, sinon ben, le stress mécanique appliqué va être trop fort et on va se blesser. Donc voilà. Moi, ma coupure, c'est ça, c'est de baisser drastiquement mon volume, hein, puisqu'on parle quand même d'un volume qui peut monter à 30 heures, hein, en saison sur les grosses, grosses, grosses semaines En préparation d'un ultra, c'est pas toutes les semaines, mais disons que c'est les gros volumes de courses. Et en ce moment, je suis à moins de 5 heures semaine. Donc pour moi, oui, c'est une grosse coupure, tu vois, c'est ça. Et ce que je fais, c'est que je diversifie aussi, je le dis bien dans l'épisode que tu évoquais là, avec d'autres sports où il n'y a pas d'impact et de charge comme ceux de la course à pied. On parle de ski de fond, de ski de rando. Voilà, de plein de sports qui me permettent de continuer à entretenir et développer mon cardiovasculaire sans charger trop mes membres inférieurs. Donc voilà, c'est important la coupure et puis ça permet aussi de se régénérer mentalement, c'est important hein, pour dans le haut niveau là, et puis même à tout niveau, lorsqu'on se prépare à de gros événements sportifs, ça nous draine quand même au niveau énergétique, ça nous tend avec notre entourage, nos familles, nos amis, nos proches, notre compagne, nos compagnons, puisqu'on doit aller s'entraîner souvent et puis on est un peu moins présent et tout ça met de la charge mentale sur une année. Et couper, baisser, donner du temps pour d'autres sphères de la vie, familiale, amicale, sociale, professionnelle, travail, mais ça décharge un peu mentalement et c'est très très important pour revenir énergisé. Sinon, on s'épuise aussi dans la tête. Donc voilà, il y a le corps, mais il y a aussi la tête qui prend beaucoup de repos dans cette période.
Et oui, et alors, tu disais, tu peux monter jusqu'à 30 heures d'entraînement, 200 km par semaine sur certaines semaines de grosses préparations. Alors, il y a un truc que t'as pas dit, parce que moi, j'ai regardé un peu ton programme, etc. L'an dernier, finalement, tu fais quoi? 6 ultras, hein, si mes comptes sont bons?
À peu près, l'an dernier, à peu près, ça doit être ça, oui.
Ouais, alors, j'ai vu Canary, Tahiti, et puis alors derrière, mais il y a une fusée qui débarque à l'UTMB, troisième. Et là, on dit, mais waouh! Attends. D'un coup, et puis ensuite derrière, tu fais le marathon des sables, et là, on se dit quand même, passer de l'UTMB, avec son dénivelé, c'est les Alpes, quoi, c'est la montée, c'est le Mont Blanc, au marathon des sables, où finalement, t'as même pas mis le dénivelé, parce qu'en fait, on le connaît pas, mis à part les dunes, etc. Et puis ensuite, tu pars à Cape Town, avec un petit passage quand même par la Turquie, la Cappadoce, j'ai vu.
Exact.
Et je me suis dit, tiens, ce trail en Cappadoce, il était 2 fois plus court, mais il est presque autant de dénivelé que l'Afrique du Sud finalement. Comment t'avais pensé ta saison et comment finalement tu l'organises pour arriver finalement à arriver enfin troisième à l'UTMB, enfin ça la claque là d'un coup. Puis j'ai vu le nombre d'articles que t'as eu à ce moment-là, disant mais puis ça coïncide avec l'entrée en plus dans le team Salomon. Enfin c'est une
Exact.
sacrée année quoi.
Ben, c'est les épinards, hein, ça rend fort, hein, c'est
C'est
Popeye.
ça? Oh punaise, arrête.
Hein. Mais bon, c'est une très très bonne question et je suis content que tu me la poses parce qu'on ne me l'a jamais posée en fait. Alors, deux réponses. La première, c'est que j'ai toujours construit. Alors, tu dis que c'est assez n'importe quoi un peu le.
Ah non, je dis pas n'importe quoi, je dis c'est surprenant de passer des Alpes au sable. En fait, on se dit, en niveau de préparation, c'est surprenant de se dire comment on fait pour passer de l'un à l'autre.
Non, non, mais c'est pas logique, ouais, c'est pas logique, il n'y a pas trop de cohérence, c'est ça que je veux dire. Voilà, il n'y a pas de cohérence. Tu as tout à fait raison, moi j'utilise le terme c'est n'importe quoi et je le pense parce que c'est pas très cohérent, puisqu'aujourd'hui dans le monde de l'ultra-trail, c'est vrai que quand on ne connaît pas, on se dit bon, ben, l'ultra-trail et puis le trail c'est courir dans la nature et puis basta, il n'y a rien, c'est tout quoi. Mais en fait, la course à pied en général, il y a plein de sports dans le sport. Déjà, tu le sais bien, mais entre la course sur route et la course de trail, c'est pas du tout les mêmes entraînements, c'est pas les mêmes environnements, c'est même pas les mêmes mentalités. Aujourd'hui, tu fais parler un coureur de route avec un coureur de trail, ils ont pas les mêmes langages de course à pied, ils se comprennent pas. Enfin bref, voilà. Et au sein du trail, il y a même des sous-sports encore une fois, dépendamment de la distance, dépendamment de l'altitude et dépendamment aussi des dénivelés. Tu peux avoir des ultra-trails sur route, enfin pardon, des ultra-marathons sur route, des ultra-trails avec très fort dénivelé, des ultra-trails dans le désert comme le Maroc et chaque trail va demander une préparation particulière. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une saison assez cohérente, parce que si tu vas d'un type de trail à un autre, mais tu vas pas pouvoir être le meilleur que tu puisses être et ça va être compliqué. Alors moi, depuis toujours, j'ai commencé le trail, l'ultra trail en 2017. J'ai organisé mes saisons un peu. Je suis un rêveur, hein. Je suis vraiment un rêveur. Donc j'allais sur des sites de courses. Il y a plusieurs sites de courses qui te proposent les courses, voilà. Ou lorsque tu ouvres sur la page d'accueil, c'est une carte du monde pour choisir tes courses. Et puis tu as des petites étoiles un peu partout dans le monde et tu zoomes dessus, tu cliques sur l'étoile et ça te dit le nom de la course et le lieu. Et donc moi, je me prenais à rêver et j'allais vraiment, j'allais sur Hong Kong, j'allais sur la Nouvelle-Zélande, j'allais sur les Antilles, j'allais sur Tahiti, je voyais qu'il y avait des courses, je cliquais dessus. Et voilà, c'est un peu comme ça que je choisissais mes courses, plus pour des destinations qui me faisaient rêver, parce que la course était un prétexte pour voyager. Et je ne pensais pas du tout à une cohérence en termes de progressivité de distance ou de type de terrain, je t'avoue, je m'en foutais complètement. Après, j'ai commencé à progresser dans le sport et je me suis dit, allez, là, il faut commencer à mettre un peu de cohérence dans le sport, dans mes courses, dans le choix de mes courses. Et c'est en 2019, que, donc 2 ans après à peu près, que j'ai commencé à vouloir organiser un peu plus sérieusement ma saison. D'autant plus que l'année d'avant, en 2018, j'avais fait mon premier UTMB, j'avais fait un classement assez honorable puisque j'avais réussi à rentrer un top 20 pour un premier UTMB après un an dans le monde de l'ultra trail. Et c'est là que j'ai dit, OK, organise un petit peu mieux l'année prochaine. Et 2019, je me suis en janvier ou février blessé. Je suis allé un peu fort en début d'année sur la reprise. Voilà, encore un exemple concret de ce que je disais en début d'échange là. J'ai repris un peu vite en janvier et puis je me suis fait une fracture de stress, fracture de fatigue dans le sacrum bas du dos, ce qui fait que ma saison 2019 est tombée à l'eau, enfin était en demi-teinte. En 2020, j'avais reconstruit une saison un peu plus cohérente et voilà, j'ai tu connais la suite, pandémie mondiale, tout est abandonné. Fait que 2021 arrive et puis je voulais un peu renouer avec le plaisir de la course, des courses, des voyages qui me manquaient beaucoup. Ça fait que 2021, je l'ai organisé un peu comme je le faisais avant, sans trop de cohérence et plus un peu allez, je veux retourner un peu voir des beaux coins du monde, je veux profiter parce que là, ça fait quand même 2 ans qu'on est confiné et j'ai pas envie de. Voilà, je veux faire des choix de cœur pour les courses. Ce qui fait que je me retrouve aux Canaries en février, en Polynésie. Tu l'as dit en mai, sur l'UTMB en août, au milieu du Maroc, voilà, bon, et puis en Turquie et en Afrique du Sud. Mais avec le recul, je te le dis là, c'était vraiment pas un bon choix pour, disons, une raison de performance parce que c'est trop se disperser de faire ça. Et tu peux pas optimiser ton potentiel, en tout cas, si c'est juste pour finir les courses. C'est sûr qu'il n'y a aucun souci pour faire ça, hein. Tu vas prendre du plaisir pareil. En revanche, si tu as un objectif de performance parmi mes différents objectifs, parce qu'il n'y a pas que ça, hein, qui me drive, mais la performance fait partie des raisons d'être qui me drive, j'ai clairement pas optimisé ce que je pouvais faire sur chacune des courses. Alors, la brique centrale, c'était l'UTMB. J'ai vraiment fait un bloc d'entraînement spécial UTMB, c'était mon focus. Et puis, le reste, c'était, je fais au mieux, je fais au mieux. Mais ça reste qu'un entraînement du TMB est tellement gros que tu développes quand même une capacité d'endurance qui est quand même intéressante, même si tu fais beaucoup de dénivelé et beaucoup de randonnées en montée, ça reste que aller faire un marathon des sables après un UTMB, ça peut fonctionner. Mais clairement, j'étais pas adapté. J'étais pas adapté à la chaleur. J'étais pas adapté à courir dans le sable. J'étais pas adapté à courir longtemps à plat. Tu sais, au marathon des sables, il y avait des étapes de 40, 80 kilos. Je pense que en prépa UTMB, la plus longue sortie que j'ai dû faire à plat d'affilée, c'est même pas 10 km.
Ah.
Donc voilà, tu vois, c'est pas l'adaptation parfaite. Et voilà, après, grâce à ce résultat à l'UTMB et puis à tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie dans les 2 dernières années, aussi sur ce que je disais de raconter de belles histoires, mais Salomon s'est dit, OK, Matt, aujourd'hui, il est prêt là à intégrer le team international. Et pour la prochaine saison, donc cette année 2022, j'ai travaillé un petit peu plus une saison de raison plus qu'une saison de cœur parce que voilà, je sais qu'aujourd'hui j'ai 34 ans. Le sport, je suis conscient que ça dure pas toute la vie. En tout cas, le pardon, la, pas, le, pas, pas le sport en général, mais plus la capacité à performer, j'en suis conscient. Et que donc, c'est maintenant que ça se passe. Là, c'est dans les 3, 4, 5 prochaines années. Et que si je veux optimiser encore mon potentiel et progresser, il va falloir que je fasse un petit peu des choix plus de raison. Et donc, ma saison 2022 est organisée un petit peu plus de manière cohérente. Voilà, donc longue réponse pour une question que je trouvais bonne et voilà, où pourquoi ça semblait un petit peu anarchique, hétérogène avant et que c'est un petit peu plus homogène aujourd'hui.
L'UTMB reste au centre de ta saison qui arrive ou il y a autre chose?
L'UTMB est 100% au centre de la saison 2022. C'est la brique principale que je pose. Comment je fais quand je construis un calendrier, c'est que je prends bêtement un calendrier qui va de janvier à décembre et je pose des briques dedans. Et la première brique que j'ai posée en 2022, c'est UTMB 2022. Et ensuite, je construis autour. Par exemple, post-UTMB, je me mets 15 jours de repos et pré-UTMB, je me mets 10 jours d'affûtage. Donc déjà, il y a pratiquement un mois qui est rempli dans mon année. OK?
Ouais.
Ensuite, 2 semaines avant l'UTMB, 3 semaines, 4 semaines, là, c'est mes gros blocs d'entraînement. Donc là, tu as déjà 2 mois qui sont remplis, le mois de juillet, le mois d'août et puis jusqu'à mi-septembre. Ensuite, je me rajoute une course de préparation en juin. Et puis cette course de préparation, encore une fois, je rajoute un 10 jours d'affûtage avant et puis un 10 jours de repos après et ainsi de suite. Et je place mes briques comme ça. Et après 1 heure de travail, ton année est remplie. Voilà.
Et si par hasard, tu as une chaîne de télé qui tape à ta porte et qui te dit… Vous voulez pas partir sur une île avec des palmiers là un petit peu là ?
Tu connais l'histoire, hein. Effectivement, 2019, je reviens là-dessus. J'étais blessé en début d'année, mais j'ai réussi à penser positif et à faire tout ce qu'il faut. Et puis en plus, j'étais dans la clinique du coureur, donc j'avais les meilleurs conseillers pour revenir de blessure. Disons qu'à partir du mois de mai, ça commençait à aller mieux. J'ai fait un gros entraînement et puis je me suis remis. Et ce qui fait que je me suis fixé un gros objectif en 2019 pour rattraper toute cette première partie d'année où j'étais blessé, qui était la Diagonale des Fous en octobre. Et j'ai travaillé très, 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 très fort juillet, août, septembre, octobre pour cette course. Je suis arrivé à cette Diagonale vraiment avec un niveau que j'avais jamais eu, en tout cas en termes de sensations. J'ai même atterri à l'île de la Réunion 3 semaines avant la course pour repérer le parcours au complet, pour finaliser ma préparation. Donc, c'était vraiment une préparation de professionnel, là, tu vois.
Ouais.
J'avais aussi, tu sais, c'est une fête, c'est une grosse fête là-bas, c'est presque un jour férié là. D'ailleurs, je crois que c'est un jour férié, enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est le gros événement de l'année. Et les médias avaient pensé que j'avais une place de outsider pour faire un podium là-bas. Donc, j'ai fait une petite tournée médiatique sur l'île. Donc voilà, j'étais attendu au tournant sur cette ligne de départ. Et effectivement, pour la petite anecdote, 3 jours avant le départ, vraiment 3 jours avant le départ, et c'est comme ça que ça se passe en backstage au niveau de la prod là, je suis appelé par la production de l'émission Koh-Lanta qui me dit « Matt, ça se passe là, ça y est, c'est parti, t'es sélectionné 100%, dans 3 jours, il faut que tu sois à Paris ». Je savais même pas où j'allais à ce moment-là parce que tout reste très confidentiel, je sais pas où, quand, comment, avec qui. Bon, maintenant, je sais que c'était au Fidji, mais voilà, là, à ce moment-là, j'étais un peu tout penaud puisque j'étais sur l'île de la Réunion, super crinqué, prêt à prendre le départ de cette course, et puis j'avais pas préparé mon alibi de départ puisque je pensais que le tournage allait arriver plus en début d'année 2020 puisqu'ils nous avaient donné un créneau de novembre à février pour le tournage, et finalement boum, ça tombe là. Et donc j'étais pris de court, je suis parti vraiment en mode discret sous-marin, j'ai pris mon sac dans mon hôtel, j'ai un peu mis ma casquette baissée, je suis allé à l'aéroport et puis je suis parti comme ça. Et puis en arrivant à Paris, ils m'ont pris mon téléphone cellulaire et puis mon laptop, mon ordinateur. Donc j'avais plus aucun contact avec personne, ce qui fait que j'ai pas vu toutes les personnes qui m'appelaient, qui me questionnaient. Mais Matt, on t'a pas vu sur le départ de la course. Et puis voilà, la petite anecdote de ma disparition. Si certains se posent encore la question aujourd'hui, pourquoi j'étais pas sur la ligne de départ de la Diagonale des Fous 2019. Voilà, petite anecdote.
Et on a une question à ce sujet d'ailleurs qui est drôle. C'est alors, je sais pas si t'as vraiment préparé Koh-Lanta finalement, mais parce que tu préparais surtout finalement le raid, le grand raid à ce moment-là. Mais est-ce que c'est plus facile de préparer Koh-Lanta ou l'UTMB ou est-ce que tu vois des parallèles entre les deux expériences, entre ces expériences de trail? Et Koh-Lanta, est-ce que le trail t'a aidé sur Koh-Lanta? Est-ce que Koh-Lanta, finalement, t'aide sur le trail et la course? Et puis sur une aventure, parce que t'en as pas parlé tout à l'heure, mais la Gaspésie, là, cette espèce de balade que tu nous fais en 6 jours, au lieu de faire ça en 1 mois et demi, c'est un truc encore de dingue. Tu vois les parallèles un petit peu?
Oui, alors, il y a plusieurs questions dans ta question. D'abord, qu'est-ce qui est plus dur entre les deux? 100%, 1000%, 10 000% en l'UTMB, clairement, c'est… Faut dédier sa vie à l'entraînement, à la nutrition, au sommeil, à la récupération pour aller réussir un tel événement sportif. Et puis Koh-Lanta, je dirais que ça se prépare pas en fait. Tu peux arriver totalement les mains dans les poches et gagner. Et au contraire, aujourd'hui, si tu as un petit peu d'expérience sur l'émission que tu regardes, ceux qui arrivent le plus préparés sportivement, au niveau survie, s'exposent tout de suite un petit peu trop. Et puis ce qui va se passer, c'est que dès que tu vas t'illustrer sur une épreuve très tôt dans le jeu ou que tu vas t'illustrer en termes de survie, peu importe, allumer le feu, chasser, pêcher sur l'île, bah, tout de suite les caméras vont se tourner vers toi et puis tu vas devenir en quelque sorte une cible à abattre pour l'équipe parce que tu vas être potentiellement être dangereux pour la suite ou voire même certains vont développer une forme de jalousie de pas avoir la caméra sur eux et donc fait que tu vas être une cible à abattre. Donc je te dirais que non, vaut mieux arriver pas les mains dans les poches parce que c'est quand même dur en termes de sportivement, faut quand même être capable de bouger parce que à contrario, si t'arrives sous-entraîné, que tu es un boulet sur les épreuves, tu vas te faire éliminer parce qu'au début, c'est des épreuves d'équipe et puis tu veux pas être le boulet parce que sinon bah, tu fais perdre ton équipe et puis tu perds les conforts et tu perds les immunités. Et au final, donc faut être plutôt un juste milieu, je dirais. Petite anecdote, à l'île de la Réunion, je m'entraînais quand même un petit peu pour Koh-Lanta, tu vois, puisque il y avait des noix de coco, j'essayais de les ouvrir avec des machettes, je m'entraînais. Et plus jeune, j'ai habité dans les Antilles, en Guadeloupe. Et quand j'étais tout petit, j'étais assez souple et puis léger. Et puis je savais monter au cocotier avec la technique où tu fais un cercle avec, enfin, tu croises tes doigts, tu mets autour du tronc et puis les pieds sur le tronc et tu montes comme ça, là, pour aller chercher les noix de coco en haut. Donc je savais très bien faire ça plus jeune. Et puis là, beaucoup plus tard, un peu moins souple, un peu plus lourd, mais je savais plus le faire. Donc j'ai décidé de me réentraîner à le faire à l'île de la Réunion. D'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai jamais postée où je m'étais filmé en train de faire ça, où je montais en haut du cocotier. Et arrivé à Koh-Lanta, eh ben, on me dit, règles de sécurité, on a quand même quelques règles de sécurité, c'est pas non plus liberté totale. Avec la fatigue et puis le manque de sommeil, c'est sûr que certains ont eu des petits accidents dans le passé. Donc maintenant, dans les nouvelles éditions, on n'a plus le droit de grimper aux arbres. En tout cas, on n'a plus le droit de grimper au-dessus de 3 mètres de haut, puisque voilà, avec la fatigue, on peut tomber, se faire mal et c'est dommage. Donc, aller chercher les noix de coco en haut des cocotiers, on peut plus le faire.
Ah,
Je m'étais entraîné pour rien, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, je sais à nouveau monter aux noix de coco. Ça me servira au cocotier, ça me servira probablement peut-être un jour pour aller chercher
sur un
de l'eau de
trail,
coco pour se faire un bon cocktail
ouais.
sur un trail, voilà, un trail tropical. Et donc, pour ton autre question, les parallèles, oui, il y en a, et clairement, moi, ça m'a aidé dans Koh-Lanta déjà au niveau énergétique lié à la nutrition. Quand on fait de l'ultra, on sait qu'on ne peut pas, on va consommer beaucoup plus de calories, on va brûler, pardon, beaucoup plus de calories que ce qu'on peut en consommer, que ce qu'on peut en rentrer en termes d'aliments. Ce qui fait que tout ultra-trailer d'expérience sait fonctionner sur sa filière lipolyse, donc plus communément brûler du gras. Et ce que très peu d'humains ont aujourd'hui, parce qu'ils ont aujourd'hui une alimentation qui est très très riche en carbohydrates, en glucides, du matin au soir, ce qui fait que la disponibilité en réserve sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles est assez importante. Que la filière de la lipolyse est totalement éteinte et que dès qu'on est un peu bas en carbohydrates, on va faire des petites hypos et puis on voilà. Et voilà, moi avec l'ultra trail, ça c'est déjà un premier rapprochement que je peux faire au niveau énergétique. J'étais un petit peu plus constant là-bas que certains qui au bout de 3 jours étaient déjà en hypo et que c'était très compliqué au niveau dans la tête et puis au niveau de l'énergie et du corps. Ensuite, on vit aussi dans l'ultra trail de faire des nuits complètes dehors. Donc on a un petit peu une habitude de enfin une habitude. On a déjà touché du toit, ça arrive pas tout le temps non plus, mais la déprivation de sommeil là, courir une nuit complète puis courir toute la journée, donc on sait ce que c'est. Mais ça reste difficile, hein, pour l'avoir vécu là-bas, rester plusieurs nuits sans dormir parce qu'il y a des tempêtes, des animaux qui te montent dessus, t'as froid. C'est dur, mais c'est un parallèle que je peux faire aussi. Et puis ensuite, tout simplement, au niveau mental, hein, on est poussé dans des retranchements assez lointains lorsqu'on fait un sport d'ultra-endurance, qui fait qu'on touche un peu aussi du doigt. Voilà des difficultés à gérer son physique, des petites douleurs, des fatigues, des émotions négatives qui arrivent. On les a déjà vécues durant les événements d'ultra. Ce qui fait que quand ces émotions-là ou ces sensations arrivent durant un tournage comme cette émission-là ou une aventure quelconque, ben, on passe à travers plus facilement. Donc voilà, il y a beaucoup de rapprochements qui se fait. Et effectivement, faire ce type de sport ou d'aventure peut aider dans une aventure type Koh-Lanta, survie, naufragé, c'est sûr, certain.
Alors, on va revenir sur l'histoire de l'alimentation parce que tu as commencé à l'aborder, puis c'est le thème aussi du podcast. Mais donc tu dis fonctionner sur le gras, etc. Mais enfin, je me dis bon, t'as quand même pas tant de réserves que ça avec l'entraînement que tu fais.
Alors, détrompe-toi, c'est sûr que si on regarde quelqu'un torse nu et qu'on voit qu'il a, disons, pas de réserve adipeuse autour des hanches, ben, il y a quand même une réserve de gras intrinsèque à l'intérieur autour des organes qui est énorme. Et d'ailleurs, elle est là parce que elle protège les organes vitaux. Donc, même si tu parais disons fit, en shape et puis assez sec d'apparence extérieure, à l'intérieur tu as une réserve qui est énorme et qui est presque, disons, illimitée sur une aventure ou une épreuve d'ultra-endurance. Et ce qui va t'arrêter, c'est pas ta réserve de gras, c'est autre chose. Donc oui, on a d'énormes réserves en soi qui nous permettent de largement réaliser une épreuve d'ultra-endurance d'une dizaine, 20 heures, trentaine d'heures, voire même rester une semaine sur une aventure type marathon des sables ou celle que tu as évoquée lorsque j'étais dans le bois. Donc voilà.
Donc, ça veut dire que tu t'entraînes spécifiquement et que
Ouais.
tu t'alimentes aussi, donc j'imagine spécifiquement, pour vraiment travailler cette filière-là, en fait.
Tout à fait. Alors, je fais au niveau de l'entraînement nutritionnel, je fais deux choses. La première, c'est que je fais. Ben ça, c'est un mot qu'ont décidé aujourd'hui les nutritionnistes ou les professionnels de la santé de mettre dessus. Mais pour moi, c'est la normalité, c'est le jeûne intermittent. Je dis bien le mot parce que ça me met dans une case, en fait, de faire quelque chose qui est différent des autres. En fait, non, pas du tout. Chacun sa perspective. Hein. Aujourd'hui, ça m'énerve ceux qui nous placent dans des cases et qui nous jugent. Pour moi, les jeûnes intermittents, c'est la normalité. En fait, c'est très simple. Je ne déjeune pas le matin. Je vais m'entraîner comme ça. Et puis, je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Et puis, voilà, je vais manger à mon retour d'entraînement. Je trouve ça plus logique. Et au niveau sensation, je suis mieux. Ça va être à 11h midi, là. Et je dis ça, je trouve que c'est une normalité parce que je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à notre dépense énergétique, surtout quand on travaille en bureau, qu'on est assis toute la journée, faire trois repas par jour, trois énormes repas par jour, hyper caloriques, je trouve que, enfin, c'est logique que la dépense calorique versus ce qu'on ingère, il y a un débalancement qui n'est pas normal. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est une normalité. Mais en tout cas, aujourd'hui, appelons-le jeûne intermittent. Ce qui fait que, puisque j'aime me coucher très tôt le soir, je finis de manger en général à 7 heures, entre 7 heures et 8 heures. Qui fait que de 8 h jusqu'à 11 h le lendemain, ben, la réserve de glucides va baisser, qui fait que ben, tous les matins, mon corps travaille un petit peu sur cette filière de la lipolyse. Déjà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez quotidien pour moi. Ensuite, de temps en temps, ben, il y a une journée où je vais prendre une journée complète de repos. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Et ces jours-là, je décide de faire un jeûne complet, hein, de 24 heures. Parce que, ben, comme je fais rien de la journée, ben, je suis très bien comme ça. Et enfin, alors ça c'est une expérience plus récente, voilà, un jeûne un peu plus long là. J'ai fait ça pendant les fêtes, entre le repas de Noël et le jour de l'an, à peu près une semaine. C'est plus expérimental parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui apprend et puis qui fait des choses dans la vie qui sont basées sur les connaissances scientifiques et non pas sur les croyances des uns ou des autres, les croyances qu'on voit sur les blogs de grand n'importe quoi, les croyances des recettes de grand-mère, les croyances du coach ou de quelqu'un qui te dit « Ah ouais, moi j'ai toujours fait comme ça l'expérience. » Je n'y crois pas, ces croyances-là. C'est les connaissances et aujourd'hui, la science étudie vraiment en profondeur. Il y a des sommités dans le monde, je pense à Tim Noakes par exemple, le Sud-Africain qui étudie ça. Mais il y a aussi des divergences dans la science quant aux jeunes à plus long terme. Et donc, moi, quand ça diverge, ben, je décide de faire des tests sur moi-même. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ce qui est sûr et ce qui est certain, au bout d'un moment aussi, il faut revenir sur la base et sur la logique. Quand on ne mange pas pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, la réserve de glycogène dans le foie et dans le muscle s'épuise. C'est pas plus logique que ça. Et que, ben, on active la filière de la lipolyse. Donc, encore une fois, ça va aider à travailler là-dessus. Je te parlais de deux entraînements que je fais parce que aussi, ben, je vais faire tout l'opposé lorsque je me rapproche d'une course. Mmh. Puisque pendant une course, je vais vouloir consommer beaucoup de glucides, puisque c'est disponible et c'est ouais. facile à brûler, mais que la digestion de glucides est assez difficile, peut créer des troubles digestifs, donc des nausées, mais aussi des diarrhées et puis des douleurs gastriques. Et puis c'est ça. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'à 2-3 semaines de la course, je vais volontairement faire des entraînements où je vais me forcer. Tu vois, je vais me forcer à prendre à peu près les quantités d'aliments que je prendrai sur une course à chaque heure, assez timé en termes d'un objectif horaire. C'est plus un objectif horaire que kilométrique, où je vais tenter de rentrer entre 200 et 300 calories par heure avec environ entre 50 et 100 grammes de glucides par heure. Voilà, répartis entre des barres, des gels, des compotes, des purées, des poudres. Et puis je le fais progressivement, mais voilà, volontairement, j'inflamme un petit peu mon système digestif pour le préparer à la course. Donc là, c'est fini le sauter le petit déj le matin. Au contraire, je vais faire un gros petit déj juste avant de partir avec un bon gruau, le ventre bien plein pour me préparer à être capable de courir, d'être en effort avec le ventre plein et puis surtout le système digestif qui travaille. Donc voilà, c'est ce que je fais. Ça peut paraître un peu intuitif, mais des fois, c'est sûr que l'intuition, faut pas la suivre. Mais quand elle paraît bonne et que ça fonctionne sur soi, ben, c'est ce que je fais. Je fonctionne comme ça aujourd'hui. Ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien.
Mais je vais te dire un truc, c'est que j'ai un épisode en stock qui n'est pas diffusé et qui sera diffusé après qu'on diffuse le tien. Mais l'invité me disait en fait la même chose, c'est que y a beaucoup de sportifs en fait qui, à un moment donné, ont du mal à consommer ce qu'il faudrait consommer en situation de course, en fait. C'est-à-dire que la dépense en course peut être tellement importante, etc., qu'ils s'entraînent pas assez à consommer ce type d'aliment.
Parce que tout le monde commence à consommer ce qu'il faut consommer en course le jour de la course. Mmh. C'est trop tard. Ou ils essayent lors d'une longue run, une longue sortie 2 semaines avant, mais c'est pas suffisant. Le corps est une super machine à s'adapter, et puis tout le corps s'adapte. Donc là, on parle des tissus d'abord, le truc le plus classique, les muscles, les tendons, les articulations. Mais au niveau du système digestif aussi, on peut aussi créer une adaptation. Et tout le corps est une super machine à s'adapter à partir du moment où le stress appliqué est progressif. Mmh. Voilà. Et même chose pour le système digestif. Si du jour au lendemain, tu te mets à rentrer 2 gels par heure, une barre, une boisson isotonique, une boisson sucrée, peu importe, mais ton ventre, il va te dire, mais non, en fait, laisse tomber, je suis pas prêt à. Il n'y a pas l'équilibre encore, l'équilibre des sucres là-dedans, l'équilibre des bactéries. Enfin, c'est tout un monde là-dedans, hein, c'est un second cerveau. Il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'équilibre. Et ça commence quelques semaines avant la course, avec une certaine progressivité. La première sortie, allez, ça va être peut-être 150 cal par heure, 20 grammes de carbs, des carbonhydrates. Et puis la deuxième sortie, on en met un peu plus, jusqu'à être capable de rentrer peut-être. En tout cas, moi, c'est mon maxi, mais chacun ses trucs. Mais moi, c'est autour de. Je sais qu'au-delà de 300 calories et 70 grammes de carbs par heure, je commence à être difficile. Mais c'est l'objectif que je me donne avant ma course d'être capable de tenir 3, 4, 5, 6 heures avec cet objectif-là nutritionnel, sans nausée et sans inconfort gastrique. Et puis, si je le valide avant la course, ben, normalement, c'est sûr que ça va fonctionner le jour de la course aussi. Mais aujourd'hui, tu as 99% des gens qui ne le font pas.
Mais oui, parce que nous, on nous dit oui, en sortie longue, on teste un petit peu quelle barre
pas,
on va prendre,
ça
etc.
Ça suffit pas. Puis même partir, tu sais, on a tellement une éducation sur la nutrition, voilà, qui nous fait encore une fois avoir beaucoup de croyances qui sont fausses. Ça, c'est beaucoup de biais cognitifs qu'on a en nous et qui on ne peut pas les contrôler puisque c'est des mécanismes automatiques dans notre petit cerveau qu'on ne peut pas contrôler, qui sont là. Mais on nous a toujours dit, il faut avant de faire du sport finir de manger 3 heures avant. Alors ça, c'est très bien le jour d'une course, mais dans une optique d'entraînement, du corps. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais manger un gros bol du gruau dans l'heure qui précède la sortie pour volontairement partir le ventre plein parce que en course, au ravitaillement, je vais me gaver et je vais avoir le ventre plein. Alors attention, je ne vais pas partir tout de suite faire un gros fractionné de fou à côté dans la première demi-heure ou la première heure de ma sortie. Mais je vais partir le ventre plein et puis je vais partir sur un petit jog ultra confortable la première heure qui va laisser le temps à mon système digestif de digérer ce qu'il y a, comme le début d'une course d'ultra où tu pars pas pieds au plancher. Et voilà, donc tu apprends à fonctionner aussi avec une certaine quantité de nourriture à processer dans ton estomac. Et puis tu peux ensuite le transposer plus facilement le jour de la course.
J'ai vu que tu avais quelques des aliments fétiches, un petit peu. En fait, il y en a un sur lequel j'ai tilté, c'est dans le podcast, j'ai entendu dire, tu disais, la patate douce. Tu
Ouais,
parlais de la purée de patate
c'est
douce.
l'aliment magique pour moi. La patate douce, c'est number one. Number one parce que pour moi, la patate douce, c'est drôle. Pour moi, la patate douce, on dirait que c'est le dîner de con, quoi. On n'est pas mercredi soir, là. Ça va, quelle
Non.
journée? Mardi.
Non, puis on diffusera le vendredi, t'inquiète pas. Mais moi aussi j'adore la patate douce.
Je suis passionné de la patate douce, c'est toute ma vie.
Ouais. Je fais des collections de patates douces et
Je fais des
tout.
collections de patates douces, les petites, les grosses, toutes, je les ai toutes. Mais non, mais la patate douce, elle est géniale parce que déjà, d'un point de vue goût, elle est assez neutre. On sait qu'en course, au bout d'un moment, tu sais, avec l'effort et tout, on commence à avoir des écœurements sur du trop salé ou du trop sucré. Et la patate douce, déjà, elle est assez neutre. Elle est légèrement sucrée ou salée, elle est neutre. Moi, je dirais qu'elle est un petit peu sur le sucre, mais elle est quand même assez neutre, tu vois. Ensuite, au niveau macro, micro, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Enfin, il n'y a pas tout, mais il y a quand même de quoi vraiment voilà, tenir et puis répondre à nos besoins nutritionnels. Ensuite, ben, ce que tu peux faire aussi avec la patate douce, c'est en termes de texture aussi, tu peux la transformer sans trop perdre en macro et micro, puisqu'on sait que les aliments qu'on transforme, qu'on cuit trop ou… Ça peut être super bon, un brocoli ou une carotte, si tu la surcuis, si tu la crames dans le four, si tu la fais cuire à la poêle ou que tu fais de la friture avec tes légumes, mais ils vont tout perdre. Donc voilà, une patate douce, tu peux la cuire à la vapeur, puis donc elle perd très peu. Et ensuite, tu vas l'écraser en purée et puis tu vas pouvoir très très facilement la prendre en course sans mâcher, puis faciliter déjà le travail de digestion. Donc, tout ça pour dire que ben, pour moi, c'est l'aliment parfait. Et puis, ce que je vais faire, c'est que pour la pimper un petit peu, je vais la mélanger avec d'autres aliments. Peut-être un petit peu de sel parce qu'elle manque un peu de sodium. Peut-être un peu de gingembre pour apporter un peu d'anti-inflammatoire, un peu de curcuma. Voilà, je vais un peu la pimper, mais c'est vraiment l'aliment central qui aujourd'hui fonctionne très bien. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, cette petite patate douce.
Oui, alors là je profite, je fais un petit clin d'œil, il y a un épisode qu'on a enregistré avec un invité qui s'appelle Tristan Peugeot, qui lui fait des gaufres de patates douces avec du
Ouais.
tofu dedans. Il embarque ça sur son vélo quand il part faire des sorties à vélo qui montent 3 ou 4 fois le Mont Ventoux, tu vois, le genre de truc comme
C'est
ça.
ça. Après, on peut la transformer comme on veut, hein, en gaufre, en boule d'énergie, mais l'idée, c'est quand même, comme je viens de dire, de pas trop trop la transformer non plus, puisqu'au plus tu vas cuire, transformer ton légume, ton aliment, mais au plus il va perdre, au plus il va se neutraliser, quoi. Il va perdre ses vitamines, ses minéraux, et puis tu vas manger quelque chose de vide au final. Donc attention quand même, mais oui, effectivement, tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec ça, ouais.
On a une question qui est sur l'alimentation. On dit, Alix te fait des super recettes, souvent végé. Alors, on parle des cases. Est-ce qu'on rentre dans les cases, on rentre pas dans les cases? Est-ce que le côté végétarien, c'est le cas ou pas? Moi, j'en sais rien du tout. Parce que, en fait, moi, je suis pas savoir ça. Mais est-ce que finalement, c'est quelque chose qui est important pour toi ou pas? Est-ce que tu manges la viande, du poisson, des laitages? J'ai entendu dans le podcast en parler justement qu'il y a des trucs que tu as arrêtés justement. Est-ce que tu fais attention au gluten? Tous ces trucs-là qui peuvent paraître des modes dans certains cas, mais qui finalement sont, comme tu dis, il y a des trucs que la science s'est penchée dessus.
Oui, bon, c'est très complexe et la science s'est penchée encore dessus. Et puis là, c'est vraiment, 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 encore une fois, un milieu de croyance extrême. Et très peu de personnes réagissent et puis fonctionnent aujourd'hui dans le monde de la nutrition sur des connaissances scientifiques. Et ce qui est complexe aussi, c'est que tu as dit le mot gluten, mais on ne peut pas dire que le gluten, c'est bon ou mauvais. Aujourd'hui, les croyances disent que le mot gluten, c'est pas bon, mais en fait, c'est individualisé, la nutrition. Des personnes digèrent très bien le gluten et puis d'autres pas du tout. Des personnes digèrent très bien le lactose et d'autres pas du tout. Donc, c'est difficile aujourd'hui, cette question, parce que ça ne dépend pas que des aliments, mais ça dépend aussi des individus. Et donc, planification nutritionnelle d'un individu à l'autre va être très différente. Ben moi, mon alimentation est clairement, je lance un pourcentage au hasard, mais plus de 90% du temps végétarien, puisque ma compagne l'est, donc on fonctionne comme ça. Et puis, en fait, moi, encore une fois, dans la vie, j'ai décidé de pas me mettre de pression, tu vois, et de je fonctionne pas mal sur l'aliment. Et puis, si j'ai envie de quelque chose, je vais le prendre. Et tu vois, si un soir j'ai envie de me faire une grosse bière, je vais me faire une grosse bière. Ça va me dire, oh là là, c'est pas bon, tu vois. Alors, j'ai la chance aujourd'hui que ça m'arrive pas trop souvent. Ces cravings là, ces envies. Et puis voilà, je te dirais qu'au niveau de la viande et du poisson, ça m'arrive rarement d'avoir un craving de viande et de poisson. Mais je peux pas me considérer comme végétarien aujourd'hui, puisque sur une invitation, sur une opportunité d'été de barbecue avec des copains ou une invitation chez des amis à un repas, si on me sert de la viande et du poisson, je vais le consommer. Mais dans mon alimentation quotidienne, dans mon frigo, enfin, on n'achète jamais de viande et de poisson. Et puis écoute, regarde, ça fonctionne bien puisque je continue à me sentir très en forme, à bien récupérer, à performer. Donc je dirais que cette alimentation me convient. Qu'est-ce qu'il y avait comme question aussi là-dedans?
Après le gluten,
là, on regardait justement récemment avec Alix un reportage justement sur le gluten. Et en fait, tu te rends compte que c'est pas le gluten le problème. Il y en a toujours eu dans le blé. Le problème, c'est que quand tu achètes un pain aujourd'hui, que tu regardes dans la liste des ingrédients derrière, il y a 30 ingrédients.
Oui, je sais.
Il y a 30 ingrédients. Le pain, c'est 3 ingrédients. C'est de la farine, de l'eau et du sel.
Et de la levure.
Il y a 30 et de la levure, ouais. Et encore, tu peux faire ton levain, donc oui. La levure, tu n'es même pas obligé. Il y a 30 ingrédients. Et puis, le blé, il est transformé sur transformé. C'est tout. Le gluten, ce n'est pas le problème. C'est qu'on bouffe, de la merde, quoi. On bouffe du pain qui... C'est une industrie, ce pain que tu manges là. Il y a toute une industrie derrière. Si tu reviens sur des farines un peu ancestrales, du blé. Alors déjà, le blé, il a poussé dans des terres qui sont mortes. Il a été... pesticides à fond, il a été transformé sur transformé pour résister aux attaques des différents insectes. Ensuite, tu le mélanges, enfin, il fait le tour du monde avant de se retrouver dans l'usine, il est mélangé à d'autres produits. Au final, tu manges un pain, ok, mais voilà, t'as mal au ventre quoi avec ça. Mais en soi, il y a toujours eu un petit peu de gluten dans le blé. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, on a des troubles parce qu'on mange n'importe quoi. Enfin, en tout cas, les aliments qu'on nous propose, c'est transformé sur transformé. C'est ça le problème, c'est surtout ça le problème.
J'avais une question d'ailleurs à ce sujet-là, parce que c'est tu vis au Canada, donc ouais. Tu as les États-Unis à côté. Tu vois une différence, parce que tu voyages un peu à droite à gauche, un peu partout dans le monde. Tu disais qu'à Johannesburg, c'est ça, ou à Cape Town, tu avais été surpris de trouver autant de bons restaurants,
incroyable.
Équilibrés,
incroyable.
Etc.
Ouais.
Est-ce que tu vois vraiment une différence en disant, aux États-Unis par exemple, au Canada, il y a quand même plein de trucs qui sont plus transformés. Tu parlais du pain, etc. C'est plus compliqué dans certains pays. Est-ce que finalement, parce que tu y passes des fois, tu as dit plusieurs semaines avant les courses pour te préparer, etc. Quand tu es allé à la Réunion, tu peux pas amener tout ton truc en disant j'amène 3 mois, j'ai dit 3 mois, mais plusieurs semaines d'alimentation pour être sûr de manger correctement.
Alors, c'est une bonne question. C'est sûr qu'on a tout ce stéréotype et ce cliché de l'Américain, du Nord-Américain, en surpoids, pour pas dire gros, qui bouffe des burgers de fast-food tous les jours. La réponse que je vais te donner, c'est, je sais pas si elle est vérifiable, mais en tout cas, c'est la perception que j'en ai. Hein, donc, voilà. Alors, je trouve qu'en Europe, en Amérique du Nord, je dirais qu'il y a deux extrêmes. Il y a un peu plus de clivage, il y a plus une rupture. Voilà. Pour faire simple, je dirais qu'en Europe, on mange tous moyennement bien, plutôt que très bien et très mal, voilà, sur un global. Et en Amérique du Nord, je dirais qu'on mange plutôt soit très bien, soit très mal. Ça veut dire que tu vas trouver facilement beaucoup d'aliments santé, des épiceries véganes, végétariennes, aliments santé, aliments locaux, les graines, les légumes. Tu vas en trouver beaucoup, 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 beaucoup plus qu'en Europe d'ailleurs. Je vais trouver aussi au Canada, aux États-Unis, beaucoup plus de restaurants pareil santé qui portent vraiment leur étiquette sur ça, végane, végétarien, aliments sains. Tu vois les Pokéballs, les gruaux. Voilà, j'en trouve beaucoup beaucoup plus ici, mais d'un autre côté, je trouve beaucoup plus de fast-food aussi.
Ah oui, non, puis les
Donc, tu vas
supermarchés, c'est
trouver,
l'horreur.
voilà, t'as les deux et tu roules sur l'autoroute et puis c'est non-stop au Canada et aux États-Unis des fast-food et puis des voilà. Ce que je trouve un petit peu moins en Europe. Mais il y a quand même aussi cette sensibilité pour certains à la nutrition santé qui fait que tu en trouves énormément, tout comme en Afrique du Sud où je m'attendais à arriver et voir une nutrition. Tu vois, africaine, hein, basée sur ce qu'on peut retrouver dans notre pays africain. Mais j'ai été épaté. Mais sur une rue, c'était que des bars à smoothies santé, des restos santé. J'étais vraiment épaté. Donc voilà, on va retrouver ces restos-là ici en moins grande quantité, mais il y en a quand même beaucoup. Et voilà, la réponse que je peux te donner, c'est que je vois des personnes qui sont beaucoup plus de personnes qui sont vraiment portées sur l'extrême santé en nutrition et de notre côté, des gens pas du tout en santé, plus qu'en Europe. Oui, on est un petit peu, certains sont portés, mais j'en trouve moins qu'ici. Voilà, je sais pas si tu me suis, mais c'est un peu la perception que j'en ai.
Oui, il y a plein de gens qui pensent qu'ils mangent bien, qu'ils mangent pas si bien que ça, en fait, hein, en France, en Europe, et c'est ça.
Ah mais non, 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 ben non, parce que ça, c'est toute une éducation, hein. Tu sais, certains croient qu'aujourd'hui, manger des pâtes, c'est bon, mais c'est le pire truc de manger des pâtes blanches, et c'est affreux. Mais ça reste qu'aujourd'hui, les parents servent des pâtes blanches à leurs enfants, des spaghettis encore. Voilà.
Bon, on arrive vers la fin de l'épisode. J'ai quand même un truc, une question que je pose à tous les, surtout les ultra-trailers et ceux qui font l'ultra. Est-ce que quand tu pars dans tes sacs là, est-ce que t'as un truc un peu, un petit secret inavouable? Tu sais, un petit aliment que normalement on dit pas trop qu'on consomme
Pas vraiment, pas vraiment. En fait, c'est que moi, je travaille aussi. Je travaille avec un partenaire nutrition. Et aujourd'hui, les gars sont tellement ouverts et sympas qu'ils nous laissent la possibilité, en tant qu'athlète du team, de développer les produits qu'on aime en fonction de nos besoins. Et donc voilà, aujourd'hui ils me proposent les produits dont j'ai besoin. D'ailleurs un petit teasing, je sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas, mais on va tenter de faire une purée, parce que une purée de patates douces, enfin avec d'autres choses dedans, pour la porter avec moi, en plus de celle que je vais consommer, qui est un peu plus fraîche au ravitaillement. Voilà, donc disons que puisque j'ai déjà ce qu'il me faut pour l'avoir co-développé, mais je consomme ça et je comble avec si j'ai la possibilité de me faire amener des aliments un petit peu plus frais au ravitaillement, voilà, comme ma purée fraîche, je vais le faire. Après, je vais me supplémenter en BCA, voilà, ce que je fais pas forcément à l'entraînement, pendant l'entraînement, mais voilà, je vais tenter de tenir un 3-5 grammes à l'heure en supplémentation de BCAA pendant la course. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on me l'amène. J'en prends un petit peu sur moi, mais je peux pas tout transporter, sinon je serais trop lourd et je m'en fais amener au ravitaillement. Mais non, non, il n'y a rien de réponse courte, mais la nutrition et l'alimentation sportive pendant la course. Il n'y a pas de pilule magique. Hein. On cherche encore tous aujourd'hui la pilule magique, le truc qui va nous faire courir plus vite, sans nausée, sans problème gastrique. Mais voilà, je le dis, elle n'existe pas, cette pilule magique. Et donc, faut rester quand même sur des fondamentaux. Et déjà, bien respecter les fondamentaux, c'est pas simple. Et puis, si on y arrive, ben, je peux confirmer, en tout cas, je ne sais pas si elle est valable, mais mon expérience me confirme que ça fonctionne très, très bien.
Et pour finir, on a toujours une petite question sur les petites ton plat préféré, mais j'ai plutôt envie de la tourner sur un truc du style à l'arrivée de l'UTMB là, tu vois.
Ouais, ben là c'est un vrai craving que j'ai. Puis en fait, je crois que c'est à force de l'avoir fait comme un rituel, mais c'est intégré maintenant en moi. Je commence à y penser avant même la ligne d'arrivée. J'adore manger. Mon premier repas post-course, c'est une grosse pizza
T'es
avec une
sûr?
peine, avec une bonne peine de bière, pas une bière industrielle idéalement, une peine de microbrasserie brassée dans la région ou localement, et terminer le repas. Alors le dessert, c'est aussi quelque chose qui est important dans ce repas. Je vais pas le prendre au restaurant, hein. C'est vraiment un rituel. Hein. Tu vois, je suis spécial. Je demande aux personnes, c'est une demande spéciale qui sont à table. S'il vous plaît, on ne prend pas le menu, vous ne prenez pas de dessert. Le dessert, c'est aller prendre une crème glacée, en fait, avec, dépendamment de comment je me sens au niveau nausée, une boule, deux boules, trois boules, et de manger cette crème glacée en marchant et en profitant des belles endorphines que j'ai post-course dans la rue, et en repensant à ma course ou à m'asseoir sur un banc si j'ai trop mal aux jambes. Mais voilà, c'est ça, c'est pizza, pinte de bière et la crème glacée. Et je te dirais qu'aujourd'hui, c'est le rituel qui se fait à chaque fois. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que avant la course, maintenant, quand j'arrive dans une ville, je suis à la recherche de la bonne pizzeria et du shop de crème glacée qui va voilà, m'attirer avant la course, puisque ça va être aussi un driver mental en fin de course pour me pousser à me dire, allez, dépêche-toi parce que tu vas pouvoir aller profiter de ça. Voilà.
Eh ben écoute, moi je comprends tout à fait. Hein, c'est des discussions qu'on a souvent dans les coureurs en disant ceux qui sont plutôt hamburger après, pizza, etc. Non, on connaît ton choix et merci de l'avoir partagé avec nous. Bien sûr, on mettra tous les liens pour te suivre et regarder tout ce que tu fais dans les notes d'épisode, mais je vais quand même te demander si tu as des trucs là tout de suite. Donc tu as ton site, tu as les réseaux sociaux, on peut te retrouver où là?
Alors principalement, je partage un peu les belles images que je vais voir dans les paysages sur Instagram, et parfois aussi je partage des conseils. Ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur l'entraînement, mais c'est difficile. Je trouve que c'est difficile de partager sur les réseaux sociaux parce que la taille du texte est limitée. Et aujourd'hui, je me rends compte que la plupart des gens, c'est basé sur l'image, quoi. Regarde l'image, la like ou passe à la suivante sans vraiment lire le texte. Donc, je travaille pour créer du contenu tu sais, ça me demande du travail là, de donner des conseils. Puis au final, il n'est pas vraiment consommé à la hauteur que je l'espère. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai décidé de développer d'autres canaux. Donc, voilà. Instagram pour regarder, puis j'ai une page Facebook aussi de temps en temps où je relaye pour ceux qui n'ont pas Instagram. Mais sinon, voilà, ça va être le podcast où là, vraiment, je vais rentrer dans des conseils concrets. Et puis, le concret, c'est que je prépare mon UTMB 2022. Donc là, je chemine de janvier jusqu'à août dans toute ma préparation, où j'essaie de couvrir tous les sujets de manière chronologique, en temps réel, ce que je vis, de manière très spontanée. Ça veut dire que je ne vais pas parler maintenant, le prochain épisode, ce ne sera pas sur la stratégie de l'UTMB. La stratégie de l'UTMB, j'en parlerai plutôt en août. Dans ce moment, je parle, j'ai parlé de coupure. Voilà, le prochain épisode qui va sortir la semaine prochaine, ça sera sur le
Ouais, je
pourquoi,
l'attends. Tu l'as annoncé, je l'attends.
comment bâtir sa motivation, parce que c'est hyper important. Parce que ça demande, c'est des entraînements quotidiens, parfois de baisser un petit peu les billes qu'on met dans notre sphère de la vie, comme la vie sociale. Et donc, tout ça, il faut qu'on ait des pourquoi très forts pour aller s'engager sur ça. Donc, j'en parle et c'est en ce moment que je le vis. Donc, c'est ça. Je parlerai de plein d'entraînements aussi dans 2 ou 3 épisodes, parce que c'est en mars que je commence officiellement ma progression et mon plan d'entraînement structuré pour l'UTMB. Donc, je parlerai des fondamentaux, sur comment je fonctionne pour bâtir un plan d'entraînement, la progression, quelle séance spécifique je mets. Donc, voilà, suivez dans mon bain, pour ça va être très très concret. Et à la fin de l'année, peut-être, si on arrive à travailler assez vite là-dessus, je sortirai un livre un petit peu plus biographique, où on pourra voir beaucoup de backstage et d'anecdotes que j'ai encore jamais partagées. Donc, voilà.
Eh ben écoute, j'ai hâte. Et puis en attendant, ceux qui veulent vraiment voir aussi un petit peu autre chose, mais l'aventure, ton film, Confiné.
Oui, confiné. Alors confiné, ça a été c'est la plus grosse aventure que j'ai fait dans ma vie aujourd'hui. Je vais tenter d'en faire plus d'ailleurs, un teasing dans 2 semaines. Aujourd'hui, je serai dans la deuxième plus grosse aventure que j'ai fait à vie. Là, je l'ai pas encore annoncé. Je vais teaser un petit peu cette semaine, mais je veux pas trop m'étaler. Mais ça se passera dans un milieu très froid pendant quelques semaines. Et donc, voilà, j'annoncerai ça la semaine prochaine officiellement. Mais à travers ces aventures-là, c'est sûr que je partage ce qui m'arrive au jour le jour sur les réseaux. Là, ça va être plus compliqué pour la prochaine parce que j'aurai pas de réseau. Mais j'essaye de raconter. Il y a toujours un avant, une aventure. Il y a le pendant, mais il y a le après où on peut aller raconter aussi de belles histoires. Et ben avec l'aventure où j'ai couru 650 km au fin fond du bois canadien, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Confiné, qu'on peut retrouver aujourd'hui sur la plateforme Vimeo, plus pour longtemps parce que des chaînes TV
Ouais.
nous ont acheté les droits et donc on va devoir retirer le film de la plateforme ils ont acheté l'exclusivité. Donc il faut se dépêcher si vous voulez le voir, Confiné. Et c'est un film d'1 heure qui raconte cette histoire. Et puis c'est une belle réussite, je trouve, parce que voilà, on a des milliers de personnes qui l'ont vu aujourd'hui, qui ont vraiment, vraiment aimé le film. Et ça a été difficile pour nous, puisqu'on avait des milliers d'heures d'images lorsqu'on a fini le tournage entre mars et août. Et il fallait faire un film d'1 heure. Et plutôt que de centrer le film sur la performance de courir, ce qu'on aurait pu faire, hein, parce qu'aller courir ce GR-là en 1 semaine, alors qu'habituellement ça prend 1 mois et demi, la performance est là, mais on n'a pas du tout voulu mettre ça au centre du film, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les films d'aventure, et je trouve que ça déshumanise les athlètes. Et que ceux qui ne sont pas experts, qui connaissent rien au sport et qui n'ont pas envie de faire du sport, et c'est très bien comme ça, mais décrochent assez rapidement lorsqu'on centre sur la performance. Donc on a plutôt voulu mettre l'emphase et le fil conducteur sur la cohésion d'équipe, sur la création de nouveaux liens amicaux qui peuvent perdurer dans le temps, sur le soutien d'une équipe au complet, parce que courir c'est individuel, mais sans eux j'aurais jamais été capable de faire ce que j'ai fait. Sur la beauté de l'environnement aussi, très peu d'images parce que c'est un territoire très sauvage, très humide, avec beaucoup de tempêtes. C'est difficile d'aller faire des belles images de ce territoire-là. Donc voilà, c'était les deux principaux axes. Et aujourd'hui, je suis content parce que les personnes qui ne sont pas coureurs me disent: waouh, effectivement, ton film, c'est beau, l'esprit d'équipe qui en ressort et les belles images de la nature. Donc on est content d'avoir réussi en perception, à avoir fait ces objectifs, enfin, à avoir mis en image les objectifs qu'on s'était fixés d'équipe, de cohésion d'équipe, et puis de beauté du territoire sauvage et de la nature. Voilà.
Eh ben écoute, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. C'était super de t'avoir pour cet épisode. Merci beaucoup. Bon, on va suivre tout ça. Hein. De toute façon, tu l'as dit avec ton podcast, on va suivre toute l'aventure de la préparation de l'UTMB, puis de savoir comment ça va se préparer. Je mettrai bien sûr en lien tous les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Belle aventure, hein, parce que tu pars dans quelques jours, donc tu l'as dit, pour une nouvelle aventure. Et puis, bah nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Je vous dis pas, mais quelque chose me dit que c'est quelque chose. Il y a un lien, il y a un lien entre vous deux, et vous allez découvrir ça. Ciao, ciao.
Ciao, merci.
Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, @podcastsportetnutrition, et en laissant votre avis et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.